Je suis scandalisé de ce que je viens d'entendre.
Je suis souple dans mes baskets.
Et vous avez tout à fait raison, monsieur le Premier ministre.
Je vous ai compris.
Bonjour tout le monde. Alors, foutre la paix à ceux qui n'ont pas voté comme vous. C'est un peu je vais un peu plaider un peu la même position que toi, Pierre, mais un peu plus à gauche aujourd'hui. Alors, un billet un peu atypique aujourd'hui, un billet d'humeur avec un petit peu de sociologie dedans quand même, parce que ça manque cruellement dans cette campagne où on a complètement squeezé cette dimension, emportée par l'indignation, la consternation, l'effarement, bref, emportée par les passions. Au lendemain du premier tour, on a vu quelques cartes, fort utiles et instructives, passer sur le Huffington Post notamment. Carte des professions et catégories socio-professionnelles, les PCS du démographe Hervé Lebras, comparées aux résultats du premier tour et qui ont été rassemblées en fait par les décodeurs du journal Le Monde. Donc je ne sais pas si vous les avez vues, ces cartes. Emmanuel Macron a réalisé les meilleurs scores dans les villes et dans les zones où les cadres et les PCS plus étaient surreprésentés. C'est vraiment flagrant, vous irez voir. À l'inverse, la comparaison montre que Marine Le Pen a obtenu un bon score là où les ouvriers étaient les plus présents, même si c'est moins notable que pour Macron, puisque les irréductibles ouvriers bretons semblent encore et toujours résister à l'envahisseur nationaliste. Et à l'inverse, dans le sud et la région PACA, où l'extrême droite est très bien implantée, les ouvriers sont très très peu nombreux. Donc les sondages préélectoraux ont aussi été une potentielle source de renseignements de la sociologie du vote, moyennant quelques biais, donc les biais habituels des sondages. Donc là, je cite un sondage Ipsos Storia réalisé juste avant le premier tour dimanche dernier, donc dimanche 8. Donc Emmanuel Macron a obtenu le plus grand nombre de suffrages chez les électeurs les plus aisés, 25% chez les électeurs dont le revenu mensuel du foyer est compris entre 2000 et 3000 euros, 32% chez ceux dont le revenu mensuel du foyer est supérieur à 3000 euros. Il a encore convaincu le tiers des électeurs qui déclarent, je cite, « s'en sortir facilement avec les revenus du ménage ». Par rapport au niveau de diplôme, il a été le plus souvent choisi par ceux qui ont arrêté les études au baccalauréat, 24%, par les diplômés du premier cycle, 26%, et par ceux du deuxième et du troisième cycle, 30%. Il a convaincu un cadre sur trois, le quart des professions intermédiaires et des retraités, un salarié sur quatre, du public comme du privé, le quart encore des électeurs à leur compte. Donc du coup, Emmanuel Macron a séduit la France optimiste, qui vit plutôt bien et qui pense que la jeune génération vivra mieux qu'elle, à 35%. Donc ça, c'était pour Emmanuel Macron. En termes de catégories socio-professionnelles, Marine Le Pen a obtenu 37% du vote ouvrier et a convaincu le tiers des employés, 32%, soit le meilleur score parmi ses PCS, devant tous les autres candidats, juste devant Mélenchon qui était 10 points quand même en dessous d'elle. Donc malgré des scores sous les 20% dans toutes les autres catégories, elle est en tête sur l'ensemble des salariés, 26% du public. Enfin, les salariés du public, pardon, 26%, et 27% dans le privé. Donc la candidate du Front National a enregistré le meilleur score auprès de ceux qui ont l'impression d'exercer une profession en déclin, 30%, chez ceux qui ont un diplôme inférieur au bac, 30%, chez ceux qui s'en sortent très difficilement, je cite, avec des revenus du ménage à 43%. Je sais pas si je suis claire ou pas.
Oui, ça va.
Chez ceux qui pensent que la jeune génération vivra moins bien qu'eux à 25% et chez ceux qui disposent des plus faibles revenus, 32% au sein des foyers dont le revenu mensuel est inférieur à 1250 euros par mois et 29% dans la tranche 1250 euros de 1000 euros. Donc nota bene, concernant les 18-24 ans que nous sommes, c'est Mélenchon qui arrive en tête, 30% contre 21% pour Le Pen et 18% pour Macron. Visiblement, nous ne rêvions pas tous de devenir milliardaires et de nous payer un costard comme preuve ultime de notre dur labeur. Bref, quand on fait un peu de sociaux et qu'on sait qu'on a déjà entendu parler de Pierre Bourdieu et des mécanismes de violence symbolique imposés du haut vers le bas dans la hiérarchie sociale, ces résultats questionnent beaucoup. On peut se demander ce que ça veut dire, puisqu'on a une nette partition dominant-dominé, bourgeois-prolo, prolétaire, classe supérieure contre classe inférieure. Et la violence symbolique des dominants à l'égard... Quoi ?
Continue.
Voilà, bref. Moi, je me pose la question, qu'est-ce que les dominés tentent de me dire ? Quel malaise social ce vote révèle-t-il en termes d'inégalité ? Et quels en sont les effets et quelles en sont les causes ? Donc, appartenant de par mon statut et mes origines familiales à un milieu plutôt aisé, provincial certes, mais plutôt bien doté en capital culturel, bref, étant symboliquement plus dominante que dominée, et étant consciente de cet état de fait parce que je fais un peu de sociologie, tout en ayant un rejet viscéral des opinions portées par Marine Le Pen et me situant aux antipodes de ses valeurs et de ses idées, et n'étant absolument pas responsable de ce ticket pour le deuxième tour, Je suis extrêmement mal à l'aise et je revendique le droit de m'interroger, de me poser des questions. Mes choix politiques sont-ils des choix de classe ? Suis-je pour l'ouverture et contre le nationalisme parce que je ferai partie en fait des gagnants de la mondialisation, puisque je ne risque pas de perdre mon emploi, mais que je suis très contente d'acheter mon café bio et équitable à des producteurs péruviens, et que j'aurai intérêt à conserver certains de mes privilèges. Est-ce que je voulais vous faire réagir ? Je ne sais pas si ce que vous pensez du vote de classe.
Je trouve ça intéressant dans le sens où, quand on regarde dans le détail le programme de Le Pen, les premiers touchés, ce seront les gens qui votent pour elle, en fait. Parce qu'elle a beau se dire anti-mondialisation, ça reste un programme capitaliste, teinté de paternalisme bienveillant, PME, petites entreprises, ruralité, mais ça reste un modèle capitaliste qui ne remet absolument pas en cause les systèmes de domination.
Sans nationalisme économique, de toute façon, personne n'y croit. Enfin, aujourd'hui...
Non, c'est sûr, personne
n'y croit. Non, personne encore, n'y croit, mais c'est un discours...
Si, des gens y croient, mais je veux dire...
Je pense pas que les gens qui votent Marine Le Pen croient au nationalisme économique ou à la sortie de l'UE. Je pense que aussi il y a une différence entre ceux qui votent pour elle au nord et ceux qui votent pour elle au sud. Les gens du sud étant, enfin, l'électorat frontiste du sud étant des petits bourgeois propriétaires épargnants.
Alors que les gens du nord ont dans le cœur le soleil qu'ils n'ont pas dehors.
Voilà.
Bref, je crois que ce sont des questions que l'on devrait quand même se poser dans notre petite auto-analyse du vote et se demander jusqu'où la politique que nous promouvons est une politique de classe, ou du moins je pense qu'on a le droit de se poser ces questions-là, sans être suspecté de trahir le Front Républicain parce qu'on n'a pas appelé à voter pour Macron mais appelé à voter contre le FN, sans donner de consigne de vote, dans les 5 premières minutes de la conversation, hashtag Mélenchon, qui même s'il m'énerve énormément, m'a moins énervé que ses détracteurs qui n'avaient que les mots déshonneur, faute, antidémocrate, antirépublicain, petitesse, à la bouche, à défaut d'avoir un discours intelligent et argumenté. Bref, l'indignation a très bon dos quand il faut éviter de débattre et de poser les questions qui fâchent. C'est un billet à charge aujourd'hui.
C'est ce qu'on voit.
Donc si j'ai bien compris, Le Pen pose les bonnes questions mais pas les bonnes réponses.
Non, c'est pas ça. Je trouve que en sein d'un deuxième tour, j'ai un peu du mal avec toutes ces catégories morales qui sont mobilisées en fait pour juste clore le débat et qu'il y a une seule possibilité. Voilà. Donc si on veut vraiment endiguer la montée du Front National, encore faudrait-il en connaître les effets et les causes, visiblement sociales, parce qu'il y a une grande corrélation entre la situation socio-économique et le type de bulletin glissé dans l'urne. Et l'énorme problème, de mon point de vue, c'est qu'en ne recourant qu'à des catégories morales pour contester le vote FN, on se dispense de comprendre les raisons sociales du choix de 7,3 millions de personnes, et surtout d'agir. Pire, on n'utilise pas d'arguments de fond, alors que merde, on n'en manque pas, enfin le programme de Le Pen y est extrêmement contestable sur bien des points, et on se refuse à débattre, on laisse un boulevard au FN qui en vient à avoir une raison par défaut sur ces thématiques parce qu'il n'est pas contredit. Donc l'énorme problème de cette élection selon moi avec le vote FN, c'est que c'est vrai aussi un peu dans l'analyse du terrorisme, c'est que l'on ne tente pas de comprendre, d'avancer des explications sociologiques en se disant « oh là, un peu de recul », et de faire preuve d'un relativisme scientifique nécessaire pour décentrer notre regard d'individu socialement situé. On est accusé d'excuser, de cautionner et d'être d'accord. Aux quelques personnes qui osent publiquement prendre la parole ces derniers jours pour critiquer sévèrement l'ultralibéralisme de Macron, critiquer son programme sur le fond, sur le quinquennat désastreux qui a été le sien et qui s'achève sans montrer patte blanche en appelant à voter pour lui, ou pour simplement faire part de leur tentation pour l'abstention, on les renvoie au mal absolu et irréductible pardon, que représente le FN, la nécessité, je cite, d'une riposte républicaine, hashtag NKM et Christian Estrosi, oui, Christian Estrosi. On leur reproche de dédiaboliser le FN, voire de faire son jeu, je cite, de donner la moitié de leur vote à Marine Le Pen en cas d'abstention, a déclaré Cédric Villani aujourd'hui, à Libération, d'être coupable d'une faute morale en cas de nini, a déclaré Manuel Valls, bien passé pour donner des leçons concernant la montée du FN, et qui s'y connaît en faute morale, puisqu'il sait bien renier ses idées au moment opportun. Donc je m'interroge sur toutes ces lettres aussi, lettres aux insoumis, lettres d'un insoumis, lettres à la jeunesse insoumise, lettres ouvertes des marcheurs aux électeurs de la France insoumise, lettres aux insoumis tentés par l'abstention, lettres aux insoumis soumis, lettres à un ami écolo tenté par l'abstention, à tous ces billets « voter Macron, c'est empêcher le FN, Le Pen, etc. » de blablabla, à tous ces billets de bons samaritains qui se sont mis soudainement à fleurir sur les blogs, ils sont abondamment repris par les journaux. Donc on est indigné, consterné, on agite, et certainement à raison sur le fond, le chiffon rouge de 1933. Mais le problème, c'est que culpabiliser les abstentionnistes, et j'en suis pas pourtant. Notamment mélenchoniste au premier tour, on sait. Par contre, parler aux électeurs FN, on est beaucoup moins doué, bizarrement, ces derniers jours. Qui a pris la peine de leur parler et de les convaincre? Parce qu'en négatif de toutes ces déclarations, les électeurs FN sont le mal absolu, anti-républicain, raciste, veulent la mort de la France, ont l'âme corrompue et sont manipulés par les populistes. On n'est pas loin de la psychologie des foules de Le Bon fin 19e et de la caricature des classes populaires comme des classes dangereuses, des masses incultes à dresser, éduquer, réformer, mettre au travail. Les électeurs FN, qui sont-ils? Demandent beaucoup de journaux ces dernières semaines. Les électeurs du Front National votent-ils par peur ou par haine? Demande très subtilement cette semaine le Huffington Post à une psychologue. On devine au passage qu'ils n'ont pas trop l'habitude d'en parler. Voilà, c'est binaire. Soit vous avez peur, soit vous êtes méchant, soit vous êtes con, soit vous êtes con. Et derrière, on ne parle pas du terreau social de la montée du FN. Encore une fois, je comprends et j'adhère en une immense partie à l'argument moral de tous ces discours, mais je trouve extrêmement dérangeant qu'ils servent d'anathème. Si vous avez un mais à dire, une nuance, c'est que vous êtes fasciste par défaut. Et pendant ce temps-là, on ne parle ni des programmes, ni du fond, ni des grosses variables sociologiques qui sautent aux yeux derrière ce vote du premier tour. On ne se demande pas pourquoi les plus pauvres sont désespérés, parce que oui, le jeu du marché et la nécessité de s'adapter à l'économie mondiale sont des arguments conservateurs pour justifier le fait que certains ont tout et que d'autres n'ont pas grand-chose, ni de la finance, ni de la mondialisation au concret, ni de la désindustrialisation qui a pourtant bien fait le terreau de la montée de l'extrême droite. Sauf Marine Le Pen qui se retrouve toute seule à frapper là où ça fait mal hier sans que personne n'ait prévenu le coup. Macron, candidat de la finance, parce que oui, toutes les bourses européennes et américaines ont bondi à l'annonce du résultat la semaine dernière, parce que Macron refuse de dévoiler ses donateurs financiers, parce que c'est pour ne pas se plier à cette exigence de transparence qu'il a créé à dessein un mouvement et non un parti. Et parce que le parquet de Paris a ouvert une enquête pour favoritisme et complicité de recel concernant sa petite sauterie à Las Vegas. Voilà, ces derniers temps. Bref, on ne parle pas des causes. Cet amitié est bien utile au FN comme aux libéraux convaincus. Et on fait l'autruche sur le malaise social. Il ne faut surtout pas en parler. Le programme d'Emmanuel Macron est à prendre ou à laisser tel quel. Changer mon programme, ce serait trahir mes électeurs, a-t-il dit ce week-end. Alors que d'après les sondages, seul un peu plus de la moitié de ses électeurs adhèrent à son programme, le niveau le plus bas parmi tous les autres candidats. Plutôt que de faire des concessions sociales de gauche visant à améliorer le sort des plus pauvres qui rassembleraient véritablement autour de sa candidature, c'est lui qui a choisi la posture inverse, rester droit dans ses bottes en ce moment critique, posture sourde à la détresse sociale, tout aussi indigne et anti-républicaine selon moi. Voilà.
Merci Maëlys.
Merci Maëlys.
Et ça fait plaisir de t'entendre. Et tout de suite, sans transition, il se trouve que, comme toutes les semaines, j'ai quelque chose à vous dire.